Maintenant, étant donné que c'est ainsi, quel est maintenant le travail sublime que le disciple doit réaliser? Je vous le dirai. Voilà, c'est le summum, c'est le sommet, c'est le but, c'est la quintessence de tout. Voilà, ça c'était dans l'ancienne Égypte. On instruisait le disciple que l'être humain était un résumé, un microcosmos, et que toute la nature était représentée dans l'être humain, dans son fort intérieur, dans ses pensées, dans ses sentiments, dans ses désirs, dans ses corps subtils, et que pour le moment, étant donné que la vie de l'être humain n'était pas tout à fait en accord, en harmonie, en parfait état, donc dans son ignorance, dans ses penchants, dans ses mauvais désirs, il a barboté, il est descendu, il est entré dans des endroits sales et impurs, par la nutrition, par les boissons, par les respirations, par les actes, par toutes sortes de choses, il a ramassé des choses tellement négatives, tellement obscures, tellement ternes, comme particules, comme matière, dans son propre organisme, et que ces matériaux, maintenant, il doit se débarrasser, il doit se purifier, il doit se laver, il doit se nettoyer, il doit se sanctifier. Alors, pour pouvoir le faire, parce qu'on leur expliquait que tous ces matériaux qu'on a ramassés par toutes sortes d'activités insensées, non intelligentes, et ils se surchargeaient avec des choses qui agissent déjà négativement sur lui, qui lui obstruent le chemin, qui l'entrave, qui l'égare, et qui l'empêche de voir clair, et que pour réaliser certaines choses, la volonté est aussi paralysée, ainsi de suite. Donc, grâce à ces matériaux hétéroclites qu'il a ramassés depuis des siècles, grâce à son ignorance, ou à ses désirs, à ses appâts, à ses mauvaises volontés, maintenant, il faut liquider avec cette matière-là. Elle est là, elle est collée, et c'est comme ça que toutes les anomalies, tous les désordres, toutes les maladies, toutes les choses dissonantes, désagréables, s'expliquent grâce à la présence des matériaux, des particules hirsutes, hétéroclites, ténébreuses et diaboliques. Et c'est ainsi que les grands maîtres, donc dans l'ancienne Égypte, passaient le disciple à travers des méthodes de purification, malgré que c'est mentionné partout dans toutes les religions, très brièvement, insuffisamment, sans montrer l'importance de la purification, qui ne devait pas être seulement de se plonger dans une rivière ou dans un bac, dans un bassin, mais que ça devait être une façon de vivre, une façon de travailler, une façon de sentir, juste des années pour se purifier. Donc c'était toute une science. Et maintenant, comment le disciple travaillait grâce au conseil de ce grand maître? Alors, on leur expliquait tout d'abord que chaque pensée, chaque sentiment, chaque désir avait ses correspondances avec la matière céleste ou infernale. Alors, pour pouvoir maintenant la provoquer ou l'attirer ou la repousser, cette matière, alors il y avait cette correspondance dans son fort intérieur. Ainsi, quand il avait des bonnes pensées, des bons sentiments, des bons désirs et une volonté décidée d'attirer toutes ces particules célestes d'une matière tout à fait pure, mais alors une vierge éternelle qui ne devenait jamais maladif et jamais oxydable. Alors quand il travaillait donc pour attirer cette matière par son cœur, par son âme, par sa pensée, chaque jour, alors cette matière, ces particules s'installaient dans tout son corps, ils trouvaient leur place et en même temps, ils chassaient les particules qui étaient moisies, qui étaient vieillies, qui étaient gangrénées, qui étaient poussiéreuses, qui étaient... Alors, donc, il y avait donc un remplacement des matériaux. Ainsi, la pureté s'installait et les choses impures s'en allaient, disparaissaient. Jusqu'à quand le disciple renouvelait entièrement tout son corps physique, son corps éthérique, son corps astral, son corps mental. Pour les autres, ce n'était pas la peine parce qu'ils étaient faits d'une matière absolument immortelle, les autres corps sublimes. Et on lui expliquait qu'il n'y avait rien comme travail plus important dans l'existence que de changer, de remplacer ces vieilles particules obscures, éternes et maladives avec d'autres qui sont célestes, qui sont rayonnants, et de cette façon ils se renouvelaient. Et qu'est-ce qu'ils faisaient en réalité? Ah, ils ne faisaient que à bâtir, à construire, à édifier son temple, des matériaux tout à fait comme des pierres précieuses, inoxydables et rayonnantes. Alors, quand il arrivait donc à travailler toutes des années avec tout son amour, avec toute sa foi, avec toute sa conviction, avec toute sa pensée, sa volonté, pour réaliser ça, se purifier, se nettoyer, se laver, se sanctifier, alors il construisait son propre temple. Et ça s'appelait l'édification. Alors le mot édifier n'était rien d'autre que construire. Édifice. Construire son propre temple. Et pourquoi? Ah, c'était seulement le premier travail préparatoire. Et le deuxième travail qui venait après, qui était encore plus important, plus essentiel, c'était de faire descendre l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, habiter ce temple. Et quand il arrivait à rendre tellement pur ce temple, en ne le salissant jamais, en ne faisant pas des échanges avec l'enfer, en se liant toujours avec le ciel et jamais avec les égaux, il arrivait donc à tout nettoyer, purifier son temple, que le Seigneur qui aime ce qui est pur, ce qui est lumineux, ce qui est beau, alors il s'est décidé à entrer, habiter. Et une fois, le Saint-Esprit, ou le Seigneur, si vous voulez, ou le Christ, s'est décidé à habiter ce temple qui était d'une beauté, alors il n'était plus le seul, parce qu'il était accompagné par tous les archanges, tous les anges, toute une hiérarchie qui ne pouvait jamais le laisser seul, se détacher, et tous les deux, même les serviteurs de la nature vivante, l'accompagnait. Et de cette façon, le disciple devenait un tabernacle de l'Éternel. Et l'Esprit Saint a dirigé les choses, arrangé les choses, orienté les choses dans le sens du royaume de Dieu et sa justice. Dans cet être-là, il n'y avait plus de désir, il n'y avait plus de passion, il n'y avait plus de vice, il n'y avait plus de convoitise, il n'y avait plus de choses immorales, des choses terre-à-terre, des choses... Il était libéré complètement, il ne pensait qu'à rendre service et réaliser le royaume de Dieu et sa justice autant qu'il avait les moyens et les possibilités. Donc, le deuxième travail,